Et on fait un premier point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On va encore parler de sécheresse et de canicule ce matin. La canicule regagne du terrain avec la menace d'une sécheresse durable dans notre pays.
Ah oui, le déficit en eau est tel qu'il faut se préparer à des restrictions jusqu'à l'automne, avertit Éric Sauquet, le directeur de l'Institut spécialisé l'INRAE, dans les colonnes des Échos. Dans ce contexte, on cherche des responsables. Les producteurs d'eau minérale sont pointés du doigt. Laura Cambeau.
Face au manque d'eau, l'inquiétude est grandissante chez les protecteurs de l'environnement. Certains accusent les minéraliers et sourciers de trop puiser dans les nappes phréatiques. Emma Aziza est hydrologue, docteur de l'École des mines de Paris.
Ils le savent très bien que le système est à bout de souffle. Donc ils le savent très bien, ils continuent. Il y a quand même pas mal de problèmes qui font qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de l'eau en bouteille. Il existe des solutions pour purifier l'eau et localement pouvoir utiliser l'eau parce qu'elle est bonne, elle est de bonne qualité. Elle est mesurée en permanence avec des critères plutôt vraiment très pointus.
À Volvic, dans le Puy-de-Dôme, Danone est poursuivi en justice, accusé par des locaux de surexploiter les sources de la région pour produire son eau en bouteille. Antoine Cardon est le délégué général du syndicat des eaux de sources et des eaux minérales qui représentent Cristaline et Saint-Amand. Il réfute toute surexploitation des nappes par ses adhérents.
La préservation de la ressource en eau, en fait, elle se fait dès l'embouteillage, mais également en amont. C'est-à-dire qu'un litre d'eau qu'on embouteille, ce sera un litre d'eau qui sera vendu. La nappe dans laquelle nous, on va aller prélever cette eau, elle est surveillée au quotidien. Il y a des hydrogéologues qui contrôlent cette nappe, qui du coup expertisent la nappe pour savoir quelle est sa capacité à donner tant ou tant.
Le secteur de l'eau minérale n'aurait pas intérêt à assécher ses sources de revenus. En tout cas, canicule oblige, Antoine Cardon assure que les ventes de bouteilles d'eau sont en hausse.
Et on reviendra tout à l'heure à 7h45 sur la politique de la France. Sachez notamment que 1% des eaux usées seulement sont réutilisées dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut changer? On en parlera avec notre invité dans trois quarts d'heure. On va parler également des mesures que la France a prises pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Et le moins qu'on puisse dire, Claire, c'est que le FMI est extrêmement critique.
Ah oui, l'organisation internationale a passé en revue toutes les décisions prises en Europe face à l'inflation. Et Sofiane Aklouf, je me tourne vers vous. Une fois de plus, j'ai envie de dire, la France est pointée du doigt pour ses mauvaises décisions.
Mais pour l'instant, les hausses ne se répercutent pas sur notre portefeuille, du moins pas assez. L'organisation projette une perte de pouvoir d'achat de 7% en moyenne en Europe et de 3% en France, contre des hausses spectaculaires de 73% pour l'électricité, 122% pour le gaz et 36% pour l'essence. Or, il faut que l'énergie carbonée coûte plus cher pour favoriser le développement des énergies renouvelables et stabiliser l'inflation à long terme. Or, certains pays européens ont décidé de mesures pour contenir l'envolée des prix, à l'instar du bouclier tarifaire français, une solution coûteuse d'après le FMI. Ça représente 2% du PIB en 2022 en France. Rien que pour les mesures de blocage, auxquelles il faut ajouter toutes les aides du gouvernement, c'est 2% du PIB, c'est au-delà de la moyenne, la médiane européenne de 1,7%.
Le FMI, Sofiane, est plutôt favorable à des compensations ciblées et qui seraient moins coûteuses.
Oui, comme des chèques inflation, des chèques énergie ou alors davantage de dépenses dans la santé et dans l'éducation. Protéger les 20% des ménages les moins riches coûterait 0,2 points de PIB. Cela monte à 0,4 points pour les 40%. En revanche, pas de taxe sur les superprofits pour réduire les inégalités, d'après le FMI. Il est nécessaire de préserver un retour raisonnable sur investissement et de ne cibler que les profits exceptionnels. Une position à rebours de celle de l'ONU. Antonio Guterres avait appelé à prélever les superprofits des entreprises de l'énergie. Le FMI, dernier point, ne veut pas non plus de coup de pouce fiscal pour l'industrie. Les coûts des entreprises énergivores en France ont augmenté moins qu'ailleurs, selon leur étude. 30% de hausse en France, c'est moins que l'Inde et ses 40%, et à peine plus qu'en Chine, 27%. Sauf, seule exception admise, les distributeurs d'énergie qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce en termes de liquidité, selon le FMI.
Merci beaucoup, Sofiane.
Et alors que sur le front de l'inflation, on attend ce matin les chiffres en Chine, en Allemagne et cet après-midi aux États-Unis. Côté américain, les dernières statistiques en juillet seront particulièrement scrutées. Elles pourraient donner le ton de l'attitude à venir de la Fed sur les taux. Selon les analystes, un pic d'inflation a été atteint le mois dernier.
EDF réclame plus de 8 milliards d'euros à l'État français.
À son actionnaire, l'entreprise, l'entreprise a déposé un recours auprès du Conseil d'État et une demande d'indemnisation pour compenser les pertes liées au bouclier tarifaire. Pour contenir la hausse des prix de l'électricité, le gouvernement a forcé en début d'année l'énergéticien à augmenter de 20% le quota d'électricité qu'elle vend à prix cassé à ses concurrents. Et aujourd'hui, l'Europe cesse officiellement d'importer du charbon de Russie. Application des sanctions décidées par l'Union européenne au lendemain de l'invasion en Ukraine. L'Europe devrait se tourner vers d'autres exportateurs comme le Kazakhstan ou le Nigeria. Car avec la crise énergétique, la demande pour le charbon, source d'énergie la plus polluante, explose. Son cours a presque triplé depuis le début de l'année. Il s'établit aujourd'hui à 324 dollars la tonne.
Et on parlera de l'énergie juste à la fin de ce journal avec Jean-Arnold de Vinois, conseiller pour l'énergie à l'Institut Jacques Delors.
L'Union européenne va ouvrir une ambassade de la tech dans la Silicon Valley le 1er septembre prochain. C'est Gerhard de Graaf, l'un des auteurs des textes ciblant directement les GAFAM, le Digital Market Act ou encore le Digital Service Act qui a été choisi. Adina Revol, la porte-parole de la Commission européenne en France, l'a confirmé sur BFM Business. Elle dévoile les contours de ces missions sur place.
Alors Gerhard de Graaf sera le visage de l'Union européenne à San Francisco. Il devra promouvoir nos normes en matière de technologie. Nous avons été au niveau de l'Union européenne des pionniers avec le RGPD, avec le DSA, avec le DMA, donc avec nos législations en matière de numérique, des législations qui ont établi des standards mondiaux. Donc il va promouvoir nos normes, nos valeurs, nos règles, et il va aussi dialoguer avec les parties prenantes à San Francisco et aussi aux États-Unis.
Toujours aux États-Unis, Joe Biden, le président américain, met 52 milliards de dollars sur la table pour remettre les États-Unis dans la course aux semi-conducteurs.
Le président des États-Unis vient d'apposer sa signature sur le Chips and Science Act, un plan colossal pour développer la production de puces sur le sol américain. Laura Cambeau.
En ramenant la production de semi-conducteurs sur le sol américain, l'objectif de Joe Biden est clair, assurer la souveraineté des États-Unis et, selon son expression, gagner la compétition économique du 21e siècle.
La Chine essaie de nous dépasser. Ce n'est pas étonnant que le Parti communiste chinois ait procédé à un lobbying actif contre cette loi. Les États-Unis doivent être le leader mondial de la production de ces puces.
Pour y parvenir, près de 53 milliards de dollars seront consacrés à des subventions pour la production, la recherche et le développement. Autre mesure, un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de puces pour un montant estimé à 24 milliards de dollars. Un plan colossal pour atténuer la dépendance des États-Unis aux puces électroniques.
Il y a plus de 30 ans, les États-Unis avaient 40% de part de marché des semi-conducteurs, puis on a laissé les usines partir à l'étranger. Résultat, on n'en produit même pas 10% aujourd'hui.
Pendant la pandémie, les pénuries de semi-conducteurs ont fait flamber les prix de l'automobile et plus généralement de l'économie américaine. Avec cette loi, la Maison-Blanche espère limiter l'inflation, mais aussi assurer sa sécurité nationale, car de nombreux équipements militaires fonctionnent à l'aide de ces puces.
Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d'actions Tesla. Le milliardaire prévoit, au cas où il perdrait son procès à Twitter, ses fonds pourraient donc servir. Sur Twitter, il écrit « Il est important d'éviter une vente en urgence des actions de Tesla dans l'éventualité donc où sa bataille judiciaire ne tournerait pas en sa faveur. »
Et puis on va vous raconter cette histoire d'un couac pour Meta qui voulait mettre en avant ses avancées dans l'intelligence artificielle.
Et oui, l'ex-Facebook vient de lancer un nouveau chatbot, un robot conversationnel capable d'apprendre à partir des conversations humaines et de ses propres recherches sur Internet. Mais voilà le problème, quelques heures après sa mise en ligne, le robot a commencé à tenir des propos complotistes et même antisémites. Simon Tenenbaum.
Meta voulait en faire une vitrine de ses avancées dans l'intelligence artificielle. Blender Bot 3, un chatbot alimenté par plus de 20 000 conversations humaines, capable d'apprendre de ses échanges et de faire ses propres recherches sur Internet pour enrichir ses réponses. Meta met en ligne le robot il y a quelques jours et incite les internautes à discuter avec lui pour améliorer ses capacités. Mais rapidement, les réponses du chatbot tournent au vinaigre, sans doute poussées à la faute par des internautes malveillants. Le robot commence commence à reprendre à son compte des théories complotistes sur l'élection de Donald Trump, des propos antisémites et des insultes, y compris envers Mark Zuckerberg. En 2016, Microsoft avait connu les mêmes déboires avec Tay, un chatbot devenu partisan d'Adolf Hitler, qui fut débranché 48 heures seulement après sa mise en ligne. Mais pour l'heure, Meta persiste et insiste sur l'aspect expérimental de l'opération. Le groupe assure ainsi que seuls 0,16% des réponses du robot ont été signalées comme haineuses ou inappropriées.
Voilà, ce qui montre parfois les limites de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30.